RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a assisté à la réunion de retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Singapour. La coopération entre ILO et l'hôpital de Persahabatan Jakarta pour résoudre le pneumoconios. Le président Joko Widodo présente la position importante de l'éducation des caractères pour les étudiants indonésiens. Le président souligne le défi de l'éducation en Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a participé à la réunion de retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN mardi à Singapour. Cité par la page officielle Twitter du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie à Jakarta mardi. C'était la première réunion de l'ASEAN au niveau du ministre des Affaires étrangères sous la direction de Singapour. Le thème sous le leadership de Singapour est ASEAN résilient et innovant. La réunion a parlé d'un projet de document qui sera discuté par les dirigeants de l'ASEAN au sommet de l'ASEAN en avril 2018. Lors de la réunion de retraite, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont également discuté de l'architecture régionale fondée sur l'esprit de coopération et le respect des droits internationaux. L'Indonésie accueillera un atelier diplomatique TREC 1,5 qui discutera le concept d'architecture régionale. Lors de la réunion de la retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, le gouvernement indonésien encourage plusieurs choses, entre autres l'établissement d'un instrument du traité d'extradition de l'ASEAN. En outre, le gouvernement indonésien a souligné l'importance de l'unité et de la centralité de l'ASEAN pour faire face aux nouveaux défis en Asie du Sud-Est. L'hôpital de Persahabatan comme l'hôpital de référence respiratoire en Asie-Pacifique en 2019, le directeur de l'hôpital Persahabatan, M. Muhammad Ali Toha, a déclaré mardi que l'hôpital de Persahabatan a signé un protocole d'accord avec l'Organisation internationale du travail mardi 6 février 2018 à Jakarta. Au service mondial de RRI, il a expliqué la coopération se fait dans le domaine de la manipulation des patients de pneumoconios. Elle est une maladie de poumon causée par le travail dans des lieux de forte pollution comme cimenteries, les mines, etc. La signature de cette coopération est sous la forme du don de certificats pour les médecins qui peuvent traiter le pneumoconios.
Pertama diagnosis dulu, karena di negara kita ini banyak sekali penderita pneumoconiosis.
Premier diagnostic, parce que dans notre pays, il y a beaucoup de personnes avec une pneumoconios, mais pas détectée. nous continuons l'éducation et le médecin apprend à diagnostiquer le pneumoconius de la région, tous viendront ici pour l'apprendre. Après cela, une étude a été menée pour savoir le cas de pneumoconius en Indonésie, à quel point le cas est grave, le contre-mesure. Sur la base des données de l'OIT en 2013, 30% jusqu'à 50% des travailleurs dans les pays en développement souffrent de pneumoconios. L'Indonésie est un pays en développement dont l'un des appuis économiques est le secteur industriel, tel que l'industrie minière. Mohamad Ali Toha a également expliqué que l'hôpital Persahabatan a la vision de devenir le centre hospitalier respiratoire célèbre en Asie Pacifique en 2019. Pour être un leader en Asie Pacifique, il doit avoir un service de qualité et une norme internationale. Cet hôpital a déjà une accréditation nationale et cette année, cet hôpital obtiendra une accréditation internationale. Le président Joko Widodo a souligné l'importance du développement des ressources humaines en Indonésie, notamment pour la génération d'étudiants. Cela a été transmis lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur l'éducation et la culture 2018 au Centre d'éducation et de formation du ministère de l'Éducation et de la Culture à Depok, Java West, mardi. Dans son discours, le président a déclaré que les ressources naturelles abondantes ne garantissent pas le développement d'une nation. Selon lui, les ressources humaines sont la clé du développement de l'État, avec la maîtrise de l'enseignement des sciences, de la technologie et l'innovation, ce qui encouragera le progrès pour un pays.
Pada intinya, yang memajukan sebuah negara adalah SDM-nya.
Essentiellement, que faire avancer un pays est une ressource humaine et c'est une très grande responsabilité sur les épaules du père, mère et des sœurs ici une fois. Alors la stabilité sociale et politique, et puis la gestion du gouvernement et du leadership, puis la maîtrise de la science et de la technologie et l'innovation. Les pays qui remportent la compétition font avancer. Je transmets ici la position importante de l'éducation qui construit notre caractère Pancasila priorise les intérêts mutuels et la solidarité sociale. Nous enseignons honnêteté pour enseigner l'égalité, la politesse, les valeurs et le caractère à nos enfants. Le président a également déclaré que la qualité de l'éducation donnera naissance à la lutte entre les étudiants indonésiens ainsi qu'une solution pour la résolution de divers problèmes qui existent dans chaque région. L'aspect éducatif, selon le président, devient également la clé pour la nation indonésienne en remportant la compétition mondiale à l'avenir. La Conférence nationale de l'éducation et de la culture 2018 a été officiellement ouverte par le président Joko Widodo. La Conférence nationale s'est tenue du 5 au 8 février et a été participée par 1050 participants de diverses régions, notamment des responsables du Bureau de l'éducation et de la culture, des représentants étrangers, des présidents d'organisations professionnelles et des partenaires du ministère de l'éducation et de la culture. La ministre coordinateur pour le développement humain de la culture, Madame Puan Maharani, la ministre de l'Éducation et de la Culture, Monsieur Muhajir Effendi, et le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Pratikno, ont accompagné le président. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le président Joko Widodo a souligné le problème éducatif qui doit être résolu, en particulier l'éducation dans la région. Dans son discours lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur l'éducation et la culture 2018 à Depok, Java West, il a affirmé que plusieurs cas dans le monde de l'éducation devenaient l'attention des médias il y a quelque temps. En outre, le président a également souligné l'utilisation des médias sociaux parmi les étudiants. Selon lui, le problème de question qui devait l'attention indique le devoir qui devrait être résolu bientôt.
sekarang hampir setiap minggu, setiap hari, gambar-gambar dari daerah itu masuk ke saya.
Maintenant, presque chaque semaine, tous les jours, de nombreuses photos de différentes régions me sont envoyées. Et maintenant, les gens envoient leurs photos par Twitter, FB, très facilement. Et récemment, nous regardons l'éducation de caractère est encore un gros devoir dans notre processus d'éducation. Nous venons de voir la mort d'un professeur école professionnelle à la régence de Sampang, Ahmad Budi Cahyono, devrait être notre grand note. Pourquoi cela peut être arrivé? Et ensuite, intimidation entre les étudiants dans certaines régions, y compris à Jakarta, devient notre note. La bagarre entre les gangs de l'école dans certaines villes est toujours en train de se produire. Cela devrait être notre attention. Le président a souligné l'importance des étudiants indonésiens pour suivre le développement de la science et de la technologie. C'est un moyen d'enrichir l'aspect culturel tout en renforçant la sagesse locale. Selon lui, la culture et la sagesse locale peuvent servir d'antidote à une filtration culturelle étrangère qui est incompatible avec l'esprit de Pancasila et de l'État unitaire de la République d'Indonésie. L'Indonésie est connue comme l'un des pays, surtout dans la région Asie-Pacifique, qui fournit souvent une assistance sous forme de renforcement des capacités à d'autres pays dans divers domaines. Selon le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, M. Yukiya Amano, l'assistance de l'Indonésie, notamment en ce qui concerne l'utilisation de technologies créatives, est un point important qui appartient à l'Indonésie. Cela a été dit par Yukiya Amano après une rencontre avec le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, à Jakarta récemment.
You are using in nuclear technology for agriculture.
Vous utilisez une nouvelle technologie créative pour l'agriculture, pour la santé humaine. Votre point important est que vous travaillez non seulement pour AIEA, mais vous aidez aussi d'autres pays dans l'ASEAN et des autres. Selon Yukiya Amano, lié à la coopération technologique créative, actuellement son côté avec l'Indonésie développe deux projets importants. Le premier projet lié à l'intensification de la qualité de production de soja pour améliorer la productivité et rentabilité de soja. Le deuxième projet implique l'utilisation de technologies nucléaires telles que le test radio-immunologique et les isotopes stables pour augmenter la production animale et améliorer la gestion de l'alimentation animale locale. Les deux projets visent à atteindre l'autosuffisance alimentaire et objectifs de développement durable en Indonésie. La question des affaires et des droits de l'homme est l'une des nouvelles questions liées à la mise en œuvre des droits de l'homme dans le monde. En 2011, les Nations Unies ont adopté les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. En 2011, ce guide est devenu la référence de nombreux pays du monde entier dans la formulation de politiques liées au business et aux droits de l'homme. Cependant, en plus guidé par ces principes, l'État doit garder comment les caractéristiques des acteurs économiques opérant dans leur pays, et cela a été déclaré par le directeur général des affaires multilatérales du ministère des Affaires étrangères, M. Febrian Alfianto Rudiard, à l'ouverture de l'atelier régional sur les affaires des droits de l'homme à Jakarta mardi. L'atelier de deux jours était l'initiation du ministère indonésien des Affaires étrangères en coopération avec l'Union européenne, le Forum international de ONG sur le développement indonésien et le réseau de Global Compact d'Indonésie.
Masing-masing negara memiliki karakteristik yang perlu dicermati.
Chaque pays a des caractéristiques qui doivent être examinées et bien sûr devient un facteur de considération dans la formation des règles d'affaires et des droits de l'homme. L'Indonésie comme par exemple les micro, petites et moyennes entreprises ou les MPME sur la majorité des acteurs économiques du pays. En outre, il existe également des entreprises d'État qui ont certainement leurs propres caractéristiques. À cette fin, la diffusion et le renforcement de la compréhension des parties prenantes sont très importants. Selon Rudiat, la croissance du secteur industriel et l'investissement en Asie du Sud-Est est l'un des facteurs qui encourage les pays de la région à formuler les politiques liées aux affaires et aux droits de l'homme. L'Indonésie est un pays pionnier du lancement des politiques commerciales et des droits de l'homme par le plan d'action national pour les affaires des droits de l'homme, qui a été initié par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec l'Institut d'études et de déployés communautaires en 2016. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les États-Unis et l'Italie agrandissent le marché de l'industrie des armes en Asie ». La région Asie-Pacifique est de plus en plus devient attention de l'Amérique pour élargir le réseau de commercialisation des armes des États-Unis. Une attention similaire est également faite par les pays d'Europe de l'Ouest qui produisent des armes, entre autres l'Italie. À cette fin, Washington semble appliquer deux approches, à savoir la diplomatie et le commerce. Les efforts pour élargir le marché des armes aux États-Unis sont notamment visibles dans le plan de la participation de fabricants des armes américains à une exposition internationale sur les armes qui s'étendra à Singapour. La raison de Washington d'élargir la commercialisation de la production des armes en Asie-Pacifique, en particulier en Asie, peut être vue à partir de moins deux choses. Premièrement, il y a l'intérêt de certains pays asiatiques à compléter avec des armes et deuxièmement, l'expansion de l'influence de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Diverses questions de sécurité à l'intérieur et dans la région, au moins une raison pour certains pays asiatiques de renforcer sa défense, entre autres du côté des armements. Singapour et les Philippines, comme par exemple, semblent de plus en plus ressentir le besoin d'améliorer les armements, en rapport avec le renforcement des questions de terrorisme en Asie du Sud-Est. Dans une autre perspective, le Japon a également intérêt à renforcer la défense. Ceci est lié au plan américain visant à réduire son rôle dans la défense de l'État. Le Japon est très préoccupé par le manœuvre nord-coréen qui mène à plusieurs reprises des tests de missiles, parfois comme il se dirigeait vers le Japon. Le Vietnam est également l'un des pays d'Asie qui reste le besoin d'améliorer la sécurité et la défense, notamment dans la région maritime. La fréquence de manœuvres chinoises dans la région contestée de la mer de Chine méridionale le Vietnam reste le besoin de renforcer ses armements dans la région. En termes d'approche de défense, les États-Unis doivent également suivre le rythme des mesures stratégiques et assertives de la Chine. Alors que l'Italie, l'un des fabricants d'armes en Europe occidentale, voit également les mêmes opportunités que les États-Unis, bien que la raison, peut-être, ait plus d'affaires que la politique. Dans une telle perspective, on peut voir que les États-Unis et l'Europe occidentale restent le besoin de prendre des mesures stratégiques et des approches pour développer leur commerce d'armes dans la région Asie-Pacifique. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteur, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Jean-Bertrand Aristide a été assermenté comme président d'Haïti le 7 février 1991. En 1990, Jean-Bertrand Aristide a remporté l'élection présidentielle en Haïti pour atteindre plus de 67% du vote. Aristide a pris ses fonctions le 7 février 1991 et est devenu le deuxième leader de Haïti étant élu démocratiquement. Après avoir prêté serment, il a fait le ménage dans l'armée et il a été renversé par un coup d'état militaire 8 mois plus tard. En coup d'état militaire le 30 septembre 1991, Force Aristide est tombé et a quitté le pays. L'autre information est sur la signature du traité de Maastricht, le 7 février 1992. Le traité de Maastricht, ou le traité de l'Union européenne, a été signé le 7 février 1992 par des membres de la communauté européenne à Maastricht, les Pays-Bas. Le projet de traité de Maastricht est rédigé dans une réunion du Conseil européen le 9 décembre jusqu'au 10 décembre 1991 dans la ville de Maastricht. Le traité de Maastricht encourage la formation de l'euro et a créé la structure en piliers de l'Union européenne. Cet accord a fixé les trois piliers de l'Union européenne, à savoir la communauté européenne, la politique étrangère et la sécurité commune, et les affaires de la justice et intérieure. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Les incendies de forêt à Victoria, en Australie, le 7 février 2009. Le 7 février 2009, les incendies ont frappé de nombreuses régions dans les États de Victoria et une petite partie de l'Australie du Sud et la Nouvelle-Galles du Sud, l'Australie. Sur la base de la carte satellite montre que le feu provenait de feux de brousse, ensuite propagé rapidement en raison de vents forts et le temps sec de l'été. Les incendies ont balayé les forêts et les zones résidentielles jusqu'au 9 février 2009. L'incendie a fait au moins 170 morts, brûlé environ 700 maisons et couvre une superficie d'environ 3000 km². C'est le temps, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, nous continuons notre émission avec le programme Mon Indonésie ayant pour le titre l'Indonésie et IAEA renforcent leur coopération. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou IAEA, Yukiya Amano, visite actuellement l'Indonésie. Sa visite du 5 au 7 février a été remplie avec les rencontres avec plusieurs hauts fonctionnaires de l'État. Yukiya Amano a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, A.M. Fakhir, à Jakarta lundi. Après la réunion, Amano a expliqué aux journalistes IAEA était prête à aider si l'Indonésie décide de construire une centrale nucléaire. Selon lui, l'énergie nucléaire est l'une des sources d'énergie les plus respectueuses de l'environnement. Cependant, il a souligné, IAEA n'interviendra pas et soumettra la décision complètement au gouvernement indonésien. Au même jour, Yukiya Amano a également rencontré le ministre de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, Mohamed Nasir. Ils ont signé un arrangement pratique qui contient une coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le domaine de l'éducation et de l'application de la technologie nucléaire. L'un d'entre eux est dans le domaine de l'alimentation. Le ministre Nasir a déclaré que le développement de la recherche devrait être bénéfique pour la population indonésienne, en particulier dans les domaines de l'alimentation, de la santé et des médicaments. Après avoir rencontré le ministre Nasir, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a rencontré la ministre des Affaires maritimes et de la pêche de la République d'Indonésie, Susi Pujastuti. Ils ont discuté du suivi de la coopération du plan de développement de l'irradiateur gamma pour la quarantaine des produits marins et de la pêche. Les irradiateurs sont des dispositifs émettant des radiations avec des sources de radionucléides, des émetteurs gamma qui peuvent être utilisés pour la conservation des aliments, des produits de la pêche et de la mer, des ingrédients à base de plantes, du matériel médical, des ingrédients pharmaceutiques, etc. L'utilisation de radiation peut empêcher l'utilisation de conservateurs qui peuvent interférer la santé. L'Indonésie est appréciée par IAEA grâce à son succès dans la création de nombreuses variétés supérieures de riz, le soja, haricots verts, l'arachide, sorgho et blé. Ils ont même été plantés dans diverses régions en collaboration avec des gouvernements locaux et des groupes d'agriculteurs. Yuki Amano également rend une visite à l'irradiateur gamma merah putih et au laboratoire radioisotope et radiopharmac situé au Centre de recherche scientifique et technologique de Serpong. L'irradiateur gamma merah putih est le premier irradiateur construit par l'Indonésie avec un contenu local atteignant environ 84% et un laboratoire de radioisotopes et de radiopharmaceutiques seront utilisés pour augmenter la capacité de production de radioisotopes à des fins domestiques et d'exportation. La visite de Yuki Amano est importante car l'Indonésie est nommée comme présidente du conseil des gouverneurs d'IAEA pour la période de septembre 2017 à septembre 2018. Le président du Conseil des gouverneurs est un poste très important car il est essentiel pour élaborer la politique d'IAEA pendant un an dans le développement de la capacité des ressources humaines dans les domaines de la science et de la technologie nucléaire pour les pays membres d'IAEA. Serditeur, c'était Mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serviteurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel. Pesona Indonesia.
Bonsoir serviteurs, bienvenue dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons un objet touristique dans la province de Java Est. Restez à l'écoute. Serviteur, l'objet de tourisme naturel à Java Est ne coûte jamais à être exploré. Il y a toujours une nouvelle destination qui est populaire. S'il y a une nouvelle destination touristique intéressante, les touristes visiteront et téléchargeront leurs photos sur les réseaux sociaux. Koban, Kembarwatu, Ondo est l'un des objets touristiques les plus récents de Java Est. On l'appelle aussi Koban. Le nom de Koban, Kembarwatu, Ondo se réfère à des escaliers qui sont soigneusement disposés à l'emplacement. Il y a des cascades magnifiques qui se font face. L'eau coule à travers le parc forestier Raden Suryo qui rend cet objet touristique plus exotique. La cascade sur le côté droit a 15 mètres de haut, pendant ce temps sur le côté gauche, il a 69 mètres de haut. Au fil du temps, actuellement, les touristes veulent un endroit pour selfie qui peut montrer la beauté de la destination touristique. Après avoir pris des photos, ils vont les charger et partager leurs selfies sur les médias sociaux. Ainsi, Koban Kembarwatu Ondo fournit le meilleur endroit pour les touristes pour selfie avec la région exotique des cascades jumelles. Ce qui est plus intéressant, l'endroit a une forme de cœur qui est faite de plantes. Si vous êtes chanceux, vous pouvez voir de beaux arcs-en-ciel et des papillons. Koban Kembarwatu Ondo est situé dans le hameau de Sendi, le village de Pacet, sous-communauté de Pacet, la région de Mojokerto en province de Javaès. L'accès à cette destination peut être passé par une voiture privée ou de location. Les touristes peuvent aller de Malang et Batu vers l'objet touristique Salekta. Ensuite, le voyage continue jusqu'à l'objet touristique Changar. De là, vous suivez le panneau à Pacet Mojokerto. Si vous voyez le pont Jumo à droite, il y a un panneau à Koban Kembarwatu Ondo. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Koban Kembarwatu Ondo dans la province de Javaès. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Memperkenalkan Hari. Je répète, Memperkenalkan Hari, ou en français, Introduire les jours. Je vais donner un exemple de conversation entre Sinta et Tony. Je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Sinta, apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? En français, allez-vous au Temple Prambanan? Tony, ya, saya akan ke sana hari Senin. Ya, saya akan ke sana hari Senin. En français, oui, j'irai là-bas lundi. Sinta, Senin, sekarang hari Senin. Senin, sekarang hari Senin. En français, lundi, maintenant est lundi. Tony, besok hari apa? Besok hari apa? En français, demain quel jour? Sinta, besok hari Selasa. Besok hari Selasa. En français, demain est mardi. Tony, saya akan ke Candi Prambanan besok hari Selasa, Mbak. Saya akan ke Candi Prambanan besok hari Selasa, Mbak. En français, j'irai au Temple de Prambanan demain le mardi, Mbak. Sinta, lusa? Lusa? En français, le lendemain. Tony, lusa berarti hari Rabu. Lusa berarti hari Rabu. En français, le lendemain est mercredi. Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire le vocabulaire et expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Apakah Anda akan ke Candi Prambanan? Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? En français, allez-vous au Temple Prambanan? Ya. En français, oui. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. En français, j'irai là-bas. Tidak. Tidak. En français, non. Saya tidak akan ke sana. Saya tidak akan ke sana. Je n'irai pas là-bas. Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Hari Senin. Hari Senin. En français, le lundi. Besok. Besok. En français, demain. Besok hari apa? Besok hari apa? En français, quel jour est demain? Lusa. Lusa. En français, le lendemain. Beaucoup de gens visitant Yogyakarta visitent le temple Prambanan, qui est le plus grand temple hindou en Indonésie. Dans le contexte du dialogue entre Sinta et Tony, Sinta veut savoir si Tony ira au temple de Prambanan ou non. Donc Sinta demande: apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Si vous demandez sur le plan de quelqu'un d'aller à un endroit, dites: apakah Anda akan pergi ke? Suivez avec moi le nom du lieu. Comme par exemple, Tony, apakah Anda akan pergi ke Inggris? Apakah Anda akan pergi ke Inggris? En français, allez-vous à la Grande-Bretagne? Tony, apakah Anda akan pergi ke Jakarta? Apakah Anda akan pergi ke Jakarta? En français, allez-vous à Jakarta? Pour répondre à cette question, si c'est vrai que vous allez au temple Prambanan, vous pouvez répondre « Ya, saya akan ke sana » ou « Ya, saya akan ke Candi Prambanan ». Mais si vous n'allez pas au temple de Prambanan, vous pouvez répondre « Tidak, saya tidak akan ke sana » ou « Tidak, saya tidak akan ke Candi Prambanan ». Le nom de jour en Indonésie sont Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. En français, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Apprenez à vous soutenir et à dire les noms de jour. S'il vous plaît, apprenez aussi l'utilisation des mots hari ini, aujourd'hui, besok, en français demain, lusa, en français lendemain, kemarin, en français hier, minggu depan, en français la semaine prochaine, dua hari yang lalu, en français il y a deux jours. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir pour les éditeurs du Service mondial de la Voix d'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se rencontre dans la rubrique du magazine musical. Cette édition, on fournira les chansons du groupe Geisha. Bon, chers auditeurs, pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, écoutons une chanson de Geisha intitulée « Si tu l'aimes ». Bonne écoute. Voilà la chanson intitulée « Si tu l'aimes » du groupe Geisha. Le thème de cette chanson est « Le cœur brisé » et est devenu la chanson principale du groupe Geisha au début de son apparition en 2009. Avant le succès de la chanson « Si tu l'aimes » en 2009, Geisha était formée depuis 2003. Ce groupe vient de la ville de Pekanbaru, Riau, qui compte 5 personnes. Ils sont Momo comme chanteuse, Robi guitariste, Nart bassiste, Dan claviériste et Aan batteur. Chaque fois qu'une nouvelle chanson est lancée, Geisha reçoit toujours un bon accueil des amateurs indonésiens. Leur chanson, qui est aussi populaire en Indonésie, intitule « Désactive ma mémoire ». Serviteur, voici donc sa chanson intitulée « Désactive ma mémoire ». Bonne écoute. Serviteur, voilà la chanson intitulée « Désactive ma mémoire » de Geisha. Ce groupe apporte encore une fois le thème du cœur brisé dans la chanson intitulé des actifs mémoires. Jusqu'à présent, Geisha a sorti 4 albums et plusieurs singles. Presque tous les thèmes sur les œuvres de Geisha sont l'amour. Mais en fait, le thème de l'amour dans les chansons faites par Robbie, guitariste, n'est pas seulement une romance. Selon Momo, comme chanteuse, le thème de l'amour présenté par Geisha est l'amour universel. Ainsi, l'amour dans ses chansons peut être sur la relation d'amoureux et la relation familiale. Peut-être ce thème d'amour qui est flexible et universel rend les auditeurs aiment facilement les œuvres du groupe Geisha. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre émission, voici donc les deux dernières chansons de Geisha intitulées « L'amour c'est toi » et « Si j'avais des ailes ». Bonne écoute et à bientôt.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
kejamnya dunia. Tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini menceritakan menangis pilu dan derita, merintih dan berdoa di
c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110, ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOI, INDONESIA, ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.